Bienvenue à toutes et à tous dans votre podcast On s'en fout, le podcast où l'on parle de tout sauf du football, mais toujours avec un acteur issu du milieu du football. Attachez bien vos lacets car nous sommes ensemble pour 45 minutes, plus le temps supplémentaire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rabia Schmidt, qui a la particularité, Rabia, d'être un peu dans tous les côtés, c'est-à-dire sœur d'un footballeur professionnel, mais elle-même joueuse de foot, étudiante, etc. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur qui est Rabia et comment elle vit au quotidien. Bonjour Rabia.
Salut.
Comment vas-tu ?
Ça va bien, toi ?
Mais ça va très bien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On va commencer comme ça tout simplement, Rabia. Est-ce que tu peux un peu te décrire, dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, etc. Un petit retour et puis nous parler un peu peut-être de ton enfance.
Ok, alors je m'appelle Rabia Schmidt, je suis la petite sœur d'Isaac, j'ai 17 ans. Je fais du foot depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai grandi dans le quartier tout près de la Pampèze. À l'âge de 7 ans, on a déménagé vers le quartier de Beauvraisse. Donc, on habite toujours ici.
C'est un quartier qui est très populaire. Hein.
Ouais, trop populaire.
très populaire, mais pas dans un mauvais sens du terme. J'entendais populaire parce qu'il y a beaucoup de diversité dans ce quartier. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et puis, du coup, beaucoup de sportifs, je crois, aussi, hein, là-bas.
Il y en a beaucoup qui viennent d'ici aussi. Et du coup, j'ai commencé le foot, comme j'ai dit, à l'âge de 9 ans. Je suis toujours dans le même club, je suis au Lausanne Nord Academy. Bon, avant, ça s'appelait Beauvraisse. Et voilà.
Rabia, tu es helvético-nigériane. Tu as une petite sœur, un grand frère, un papa suisse et une maman nigériane. Comment est-ce qu'on grandit dans une famille avec deux cultures différentes comme ça ?
Alors, on grandit très, très bien, franchement. On apprend un peu chaque culture. Bien sûr, toutes les cultures sont différentes. Et je trouve que c'est une force d'avoir des cultures différentes parce qu'on apprend à s'adapter à chaque milieu. On apprend à prendre le bon côté de chaque milieu aussi. Ça nous donne un plus, je trouve. Et je suis vraiment fière d'avoir ces deux cultures.
Est-ce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre ?
Alors, très différentes.
Est-ce qu'on fait la fête de la même manière au Nigeria qu'en Suisse, plutôt ?
Ah, pas du tout, non. Après, ça ne veut pas dire que les Suisses ne savent pas faire la fête. Hein. Mon père, il est né au Nigeria quand même. Donc, on va dire qu'il il a baigné dedans aussi. Donc, pour moi, ça ne fait aucune différence pour lui. Mais c'est vrai que au niveau de la musique, déjà, les rythmes, les danses et tout, c'est très différent.
Comment on s'amuse quand on est en partie nigériane ?
En partie nigériane, alors ?
Comment on s'amuse quand on est à moitié nigériane ? Voilà, c'est ça que je voulais
dire. Comment on s'amuse ? Franchement, quand je suis dans une fête nigériane, je m'amuse comme une nigériane. Il n'y a pas de différence avec une nigériane.
Et puis vous avez des musiques différentes, des particulières. Vous dansez sur quoi ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Comment est l'ambiance ?
L'ambiance, elle est hyper festive, la musique à fond. Les sons nigériens, en plus, ça cartonne en ce moment. Il y a plein d'artistes qui sont connus même en Europe, même les Suisses, ils écoutent ça. Enfin, ils sont hyper forts, je trouve. Et musique à fond, beaucoup de nourriture, du poulet, du riz. Enfin, la totale, quoi.
Est-ce que tu as beaucoup d'amis qui sont aussi de deux nationalités ou de deux origines différentes dans ton entourage ?
Oui, j'en ai plein. Enfin, je ne veux pas dire beaucoup, beaucoup, mais plein. J'ai des Sénégalaises espagnoles, brésiliennes suisses. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi.
C'est vraiment... multiethnique. Quand tu étais petite, Ravia, comment tu as grandi à l'école? Comment ça se passait? Quel type d'élève tu étais? Au niveau de l'intégration, alors même si tu es né en Suisse, mais c'est toujours intéressant parce que quand on parle de l'école ou du sport, qui sont des moyens d'intégration, quand on a des cultures différentes dans la famille, comment on s'intègre dans une famille? Est-ce qu'on, pardon, comment on s'intègre à l'école? Est-ce que les regards sont différents? Comment t'as vécu ton école, toi?
Alors, franchement, j'ai vécu ma scolarité d'une manière très bien. Enfin, j'ai jamais eu de soucis à l'école, que ce soit au niveau des notes. Enfin, je vais pas me vanter, mais je suis vraiment une bonne élève, quoi. Au niveau bah, des origines, j'ai jamais senti une différence, vraiment. Enfin, à l'école, c'était tout le monde parle un peu de sa culture. On dit, ouais, chez moi, c'est comme ça. Non, chez moi, c'est comme ça. Mais il n'y a jamais vraiment eu je dirais, de différence. Enfin, j'ai pas eu de souci à m'intégrer vraiment.
Tout le monde acceptait les gens tels qu'ils étaient.
Franchement, j'ai toujours été dans des classes ou dans des milieux où tout le monde s'acceptait, dans le sens où même une personne qui n'a pas deux cultures différentes, qui vient d'un seul pays, enfin, il n'y a jamais eu de. J'ai vraiment eu la chance de tomber sur des bonnes classes, quoi.
Est-ce que dans tes expériences hors école, par exemple le sport ou autre, est-ce que tu as aussi été bien accepté ou est-ce que tu as rencontré des difficultés à certains moments?
Alors, j'ai pas eu de difficulté à m'intégrer au niveau du sport. Enfin, au début, c'était vraiment compliqué parce que, enfin, au tout début, j'ai commencé dans une équipe où il n'y avait que des filles. C'était en junior F. Et bah, petit à petit, on a commencé à nous mettre avec des garçons. Alors là, ça devient un petit peu compliqué. Dans le sens où, pour une fille, c'est dur de s'intégrer dans une équipe de garçons parce que c'est pas que les garçons, ils sont réticents, mais ils ont un peu de mal à faire confiance au début. Donc, il fallait vraiment que je me batte pour ma place, il fallait que je leur prouve que, bah voilà, ils pouvaient me faire confiance. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés parce que je suis quelqu'un de nature très timide aussi. On dirait pas, mais je suis quelqu'un de très très timide. Donc, dans ma première équipe de garçons, chaque fois, j'avais la boule au ventre à un entraînement, je me disais, mais si j'arrive pas et tout, genre, j'étais vraiment comme ça. Même, je peux te raconter, genre, avant tous les matchs, vraiment tous les matchs, j'étais obligée de vomir. J'avais tellement la boule au ventre que je vomissais chaque début de match. Chaque début de match, je vomissais. J'étais vraiment pas bien, mais heureusement.
Maintenant, ça va un peu mieux.
Ah, ben oui, ça m'arrive plus, ça. Heureusement.
Et puis, tu gères un peu plus ces moments de stress.
Après, je suis toujours. Ben voilà, quand il y a un enjeu, un match de coupe ou comme ça, je suis quand même très stressée. Mais avec le temps, j'ai appris, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont bien cadré et j'ai vraiment appris à gérer ce stress.
Revenons à ta situation maintenant. Tu as fini ta scolarité obligatoire, tu es au gymnase ou au lycée. Comment tu vis ces moments-là au lycée? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Comment tu arrives à concilier ta vie de famille, ton sport et tes études?
Alors, faut savoir que quand j'ai commencé le gymnase, la première semaine, en fait, je me suis blessée. Donc, en fait, je me suis blessée. Donc, j'ai pas pu vraiment expérimenter ce que c'était d'être à 100% dans le sport et en même temps les études. Et comme je me suis reblessée, ben en fait, j'ai jamais en fait vécu ce moment où tu es dans le sport à 100%, tu as les études à côté. Mais ça fait quand même beaucoup parce que voilà, je me suis fait opérer et tout, j'ai eu des ligaments, donc je dois quand même beaucoup travailler, je me fais quand même des entraînements, je dois me renforcer et tout. Et c'est vrai que bah, c'est court, quoi. Même avec ma famille, des fois, j'ai l'impression qu'on ne se voit pas dans la journée exacte. Par exemple, bah, on se croise, on ne fait que se croiser. Ça peut faire 3 jours que je ne l'ai pas vu. À chaque fois, il part, je rentre, je pars, il rentre. Enfin.
T'as juste le temps de lui piquer ses habits,
Exactement.
et puis après vous vous croisez en fait. Il te voit, il dit mais il me semble que c'était mes habits ça, qui sont en train de partir. Non?
Ses habits.
Pourquoi tu prends ses habits?
Ah, je sais pas, j'aime trop. Genre, je sais pas. les t-shirts larges, les gros pulls, les training et tout, moi j'aime trop. Mais là, bon, il en avait un peu marre, donc je me suis acheté ma petite collection à moi, comme ça.
Ouais, c'est important. Quand tu parlais des entraînements, à ton niveau, ça représente combien d'entraînements normalement par semaine?
Alors, quand j'étais en junior B, par exemple, j'avais deux entraînements plus un. On avait une section qui s'appelait élite, en fait. Il y avait des tests pour rentrer dans cette section, puis ça faisait un entraînement en plus. Donc, trois entraînements. Maintenant, on est en deuxième ligue inter. Il y a trois entraînements par semaine. Et il y avait aussi cette section élite, donc il y avait des filles qui faisaient quatre entraînements. Il y a un moment aussi où, en fait, j'étais avec les garçons en junior C. Donc, on avait deux entraînements par semaine. Jouais le match le samedi avec les garçons et le dimanche en général je faisais un deuxième match avec les filles.
Donc effectivement, ça fait pas mal de moments de sport.
Surtout que j'entraîne une équipe de filles aussi.
Tu entraînes.
Ouais, j'entraînais une équipe de. Enfin, avant je faisais deux entraînements par semaine avec les petites, maintenant j'en fais que un parce que ça me fait beaucoup. Mais ce qui faisait que j'avais trois entraînements plus deux entraînements à donner, un match le samedi avec les enfants, un match le dimanche avec les filles. Donc ça faisait vraiment beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entraîner des enfants?
Alors, en fait, au départ, j'avais pas forcément envie de le faire. Mais quand j'ai vu, parce que c'est des équipes de filles 100% féminines, en fait, je me suis un peu vue en elles. Enfin, vous voyez la crainte et tout quand on commence. Et je me suis dit, moi, je sais ce que j'aurais voulu entendre à cet âge-là. Et donc, ça m'a vraiment envie de. Enfin, ça m'a donné envie de transmettre, quoi. Et puis, c'était important aussi pour mon entraîneur qu'on ait des filles qui encadrent les filles. C'est beaucoup plus facile. Le contact, même dans les vestiaires, c'est sûr qu'un entraîneur masculin, il va pas rentrer dans les vestiaires avec les filles.
Effectivement.
Et puis chaque année, en fait, j'avais un petit peu, à cause du temps que j'avais à disposition, j'avais toujours des moments de doute où j'avais un peu envie d'arrêter. Et j'ai pu trouver un terrain d'entente. Au lieu de faire deux entraînements plus un match, maintenant j'en fais que un, vu que j'ai pris les toutes jeunes, elles n'ont pas forcément de match le samedi. Et du coup, voilà, en plus j'ai ma petite sœur dans l'équipe, c'est trop cool.
T'as ta petite sœur, c'est facile d'entraîner sa petite sœur?
Non, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile parce que, enfin, c'est ma petite sœur, donc on est proche à la maison et quand on est aux entraînements, enfin, je dois mettre une certaine distance parce que les autres filles doivent pas ressentir une différence, je dois pas faire de différence. Et le fait que j'essaie de pas faire de différence, ça fait que je suis un peu plus sévère avec elle même. Des fois, je m'en rends compte et tout, et puis, enfin, voilà, c'est dur de dire à un enfant, ouais, là, tu vas faire comme si j'étais pas ta sœur. Enfin, on peut pas lui dire ça, quoi.
Bon, on fait un petit coucou à Etiona,
Ouais.
qui est ta petite sœur. Pour revenir à tes études, à ce que tu es en train de faire maintenant, dans première année de gymnase,
Deuxième mois, deuxième.
deuxième, pardon. Alors, tu es en deuxième année de gymnase, Ravia, ça se passe plutôt bien, tu m'as dit. Et tu vas aller dans quelle direction après? Qu'est-ce qui te plairait? Comment tu te vois, comment tu te projettes dans quelques années?
Alors, c'est une question hyper difficile. Enfin, c'est dur à répondre à cette question. On ne sait jamais vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais moi, déjà, j'aimerais bien avoir ma matu, finir les 3 ans de gymnase. Après ça, j'ai encore plein de doutes, en fait. Je me dis peut-être que déjà d'avoir la matu, c'est bien. Et puis peut-être de me donner, je sais pas, un an ou me consacrer complètement au sport. Je ne sais pas. En fait, je serais prête, même maintenant, à abandonner mes études. Mais je sais qu'il ne faut pas que je le fasse parce que c'est important. Donc, je continue quand même. Mais sinon, en voie professionnelle, j'aimerais bien aller dans l'enseignement. J'aime bien transmettre, c'est ce que je veux faire. J'aime bien le contact avec les enfants, même les adolescents. Enfin, voilà. Je pense que je vais plutôt me diriger là-dedans. Ouais. Mais prof de quoi? Anglais, maths,
Donc
éduc.
pas forcément de l'éducation spécialisé, plutôt de l'enseignement, voire enseignement spécialisé, ou enseignement standard du genre haute école pédagogique, quoi. C'est un peu ça le cursus. Très intéressant.
Et puis sport. Enfin, si je vais à l'uni, je pense que je prendrai sport. Enfin, je me dis, faut pas que je me dise je dois faire par rapport à ce que je veux faire plus tard. Je veux vraiment faire quelque chose que j'aime.
Quand tu dis tu prendrais sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça veut dire
tu
que.
ferais une formation liée du style prof d'éducation physique ou quelque chose comme ça.
même ça, ça me plairait.
Là,
L'important,
tu...
même. Donc, je pense que c'est le truc qui me plaît le plus.
Après, c'est toujours intéressant d'en parler avant parce que des fois, on le perçoit d'une certaine manière et puis après, quand on y est, on se dit, ah oui, c'était comme ça, en fait, je ne pensais pas, ou c'est différent. Mais effectivement, être professeur d'éducation physique, ça te permettrait d'allier à la fois la pratique sportive et puis l'enseignement des enfants ou des jeunes, ce qui pourrait être un bon compromis. Tu as certaines qualités footballistiques. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose dans le foot féminin en Suisse? Et comment tu le vois, ce milieu-là du foot suisse?
Alors, je pense que j'aurai les capacités. Après, là, je suis dans une phase où, voilà, je suis blessée depuis un moment. Il y a des phases où on doute et tout, mais enfin, j'ai vraiment des personnes autour de moi qui me motivent. Et pour moi, bah, avec du travail acharné, on peut tout faire. Donc, je pense que j'ai les capacités. Si je travaille, si je continue d'être vraiment régulière et assidue à ce niveau-là. Et au niveau du foot suisse féminin, tu dis. Bah, franchement, moi, j'aimerais bien... Enfin, je veux me fixer des objectifs. Mon but, déjà, c'est d'arriver au plus haut niveau suisse, ça veut dire en Ligue A. Déjà, passer par là. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. J'aimerais bien passer par là. Et puis, enfin, faut viser grand, faut pas s'arrêter juste à ça. Donc, moi, j'ai envie même d'aller plus loin.
T'as 17 ans actuellement?
J'ai 17 ans.
Les années passent assez vite finalement. Là, t'es pas dans une formation élite ou t'es en deuxième inter. Est-ce que tu penses que c'est jouable de rattraper le train en marche comme ça et d'atterrir, je sais pas, en Ligue B à Yverdon ou quelque chose comme ça?
Alors franchement, je pense que c'est jouable. Je trouve que j'ai la chance d'être dans un club quand même. On est en deuxième ligue inter, mais enfin, on est là vraiment pour travailler, on a vraiment un cadre qui est imposé, même si c'est pas élite, voilà, comme les gens ils disent. Je trouve que, enfin, j'aurais pas trouvé ça ailleurs en fait. Il y a vraiment un cadre, on est suivi, on parle de nos objectifs aussi avec les entraîneurs qui nous poussent vraiment à arriver là où on veut être. Donc pour moi, avec du travail, on peut tout rattraper.
Est-ce que le penchant foot féminin par rapport au foot masculin, qu'est-ce que tu vois toi comme différence? Je ne sais pas, dans l'état d'esprit, dans le jeu, dans les contacts, ok, on voit quelques différences, mais plutôt dans l'état d'esprit, si c'est un endroit plus sain peut-être que le foot masculin, quel est ton regard là-dessus?
Alors, déjà au niveau technique et rapide, c'est sûr que le foot masculin, il offre peut-être plus de spectacles. Après, pour avoir été dans des équipes de garçons et de filles, l'environnement, enfin, je l'ai trouvé plus sain chez les filles dans le sens où il y a moins d'engueulades, il y a moins pas des disputes, mais même sur le terrain, enfin, nous, on a appris depuis toute jeune, enfin, vu que j'ai été formée dans ce club-là. Voilà, par exemple, on ne conteste pas les décisions de l'arbitre, même si c'est injuste. On joue fair play, il n'y a pas de coup par derrière. Enfin, voilà, j'ai vraiment appris à jouer être une personne d'esprit. Comment expliquer? Avoir l'esprit sain sur le terrain, quoi. Enfin,
on peut dire que c'est les mêmes règles, mais c'est des sports un petit peu différents, finalement, dans la manière dont on les joue.
Ouais, moi je trouve que c'est assez différent. Par exemple, chez les garçons, ils arrivent à jouer bien aérien et tout. Chez les filles, voilà, il y a beaucoup de filles qui commencent assez tard. Bon, maintenant ça change, hein, y a de plus en plus de filles qui commencent tôt. Donc c'est sûr que on a peut-être moins d'aisance à ce niveau-là. Donc on comble notre manque de technique ailleurs, en fait, je dirais.
Toi, tu joues quel poste, Rabia?
Alors moi, actuellement, je suis attaquante. Mais quand j'ai commencé le foot, j'étais défenseur. Ensuite, j'ai passé milieu et maintenant, je suis attaquante depuis 2 ans.
Et la prochaine fois, ça sera gardien, c'est ça?
J'ai déjà essayé gardien, mais non, ça me plaît pas.
Quand tu vois ton grand frère qui lui est devenu un professionnel, comment tu le vois grandir? Comment tu l'as vu être dans les dans ces années élites avec, je sais pas, de la facilité, de la difficulté, comment on arrive à son niveau-là, à son niveau actuel et qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui vit du football?
Alors, moi, je suis vraiment très fière d'Isaac déjà, parce que bah voilà, c'est lui qui m'a déjà donné envie de faire du foot. Faut savoir que quand j'étais petite, je le suivais, mais partout, c'était chaque entraînement, chaque match, même quand il partait à l'étranger, voilà, je le suivais avec mon père. Donc, j'ai vraiment été présente durant toutes ces années de junior, je le suivais, enfin, j'étais son ombre en fait, je le voyais partout, partout, partout. C'est lui qui me prenait dehors, aller faire du foot. Voilà, je jouais avec des garçons. Ma mère, elle avait peur carrément. C'est vraiment lui qui m'a transmis cette passion. Et quand il a rejoint du coup le Zan Foot Academy, quand il était jeune, en fait, je réalisais pas forcément parce que j'étais petite. Au fil des années, j'ai vu que vraiment, il commençait à grimper quand même.
Est-ce que c'est beaucoup de sacrifices qu'il a dû faire pour arriver là?
Ah oui, beaucoup de sacrifices. Beaucoup.
Ça veut dire quoi comme sacrifice?
Déjà, quand on est à 100% comme ça, c'est pas facile de. C'est pas qu'on n'a pas de vie sociale, hein, mais c'est plus compliqué d'avoir des sorties avec les amis. Voilà, t'as des amis qui veulent aller au McDo. Toi, t'as peut-être envie de garder un peu ton hygiène de vie, donc tu peux pas y aller. Sortir avant un match, voilà, il y a plein de choses comme ça que on peut pas se permettre de faire.
Le repos, les copines, les copains, etc.
Après, avec les études aussi, ça a été assez compliqué pour lui. Des fois, voilà, faut faire des sacrifices. Après, sacrifier lequel au niveau des, enfin, sacrifier les études ou le foot, c'est ça la question. Mais enfin, il s'est vraiment battu. C'était pas facile, quoi. Moralement, des fois, c'est pas facile, mais on était là pour le soutenir aussi, donc voilà.
Qu'est-ce que fait une famille pour soutenir son frère, fils, qui est footballeur professionnel? Qu'est-ce que c'est de le soutenir?
Alors déjà, le soutien moral, enfin, ça se voit tout de suite, Isaac, sa tête, s'il est bien, s'il est pas bien, si un match, il est déçu ou pas, ça se voit direct à sa tête. Donc déjà, essayer de parler avec lui, d'avoir un avis extérieur, de comment dire, le rassurer sur la situation, le motiver, lui rappeler pourquoi il fait ça aussi. Des fois, on oublie un peu, on est down et on se dit, mais pourquoi en fait je fais ça même? Puis d'avoir la famille derrière qui te rappelle pourquoi tu te bats pour ça, c'est très
Lui
important.
rappeler pourquoi il doit dormir un peu plus tôt,
Exactement.
etc.
Pourtant, Isaac va dormir. Des fois, je suis obligée de le pousser au lit, quoi. Et aussi, au niveau même des tâches ménagères, par exemple, il n'avait pas beaucoup de temps, que ce soit avec les études. Donc voilà, nous, on l'aide, on essaye de lui alléger aussi les tâches. Voilà, il y a plein de choses comme ça.
Depuis qu'il est arrivé officiellement dans la première équipe de Lausanne Sport, est-ce que tu l'as vu changer? Humainement, physiquement, est-ce que tu as vu des différences par rapport à avant?
Alors, bon, déjà, comme j'ai dit, je le vois pas souvent. Donc, c'est dur. Enfin, il y a quand même une différence. C'est que, il a pas enchaîné des déceptions, mais c'était pas facile au début. Je pense que ça a forgé aussi un peu son caractère. Maintenant, enfin, quand on enchaîne un peu les déceptions, quand c'est plus dur aussi, on apprend à surmonter. Enfin, je trouve que maintenant, il a plus de force mentale qu'avant, je pense. Il a appris ce que c'était, voilà, la vraie difficulté. Et physiquement, il a été blessé plusieurs fois, donc je ne peux pas trop dire. J'ai pas vu.
Mais il a bougé, le fait d'avoir des entraînements encore plus poussés qu'avant. Enfin voilà, même quand on arrive dans une équipe professionnelle, on progresse encore.
Ouais, il a beaucoup progressé, ça c'est sûr.
Quand tu l'as vu, pardon, la première fois entrer en Challenge League avec Lausanne, qu'est-ce que tu as ressenti?
J'étais je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment fière. J'étais même émue un peu, tu vois. Genre, je me suis dit, voilà, il a gravi une étape, enfin, il a franchi une étape de plus. Et vraiment, enfin, je voyais qu'il était heureux et ça m'a rendu vraiment très heureuse pour lui. Très heureuse.
C'est très chaud ce que tu dis. Quand il a porté aussi le maillot suisse en moins de 20 ans, ça devait être aussi quelque chose d'intéressant.
C'est indescriptible en fait. De le voir porter le maillot et tout, déjà c'était waouh. Il me dit ouais, moi aussi j'ai envie de me battre, tu vois, pour arriver à cet endroit-là aussi. Enfin, ça me motive aussi à. Enfin, en fait, le fait qu'il le voir monter comme ça, ça me motive aussi beaucoup. C'est une source de motivation pour moi.
Mais est-ce que ça lui met de la pression de se dire, voilà, les autres comptent sur moi ou ont envie de me voir réussir? Et est-ce que des fois, ce n'est pas trop de pression?
Alors, je ne sais pas, j'en ai jamais vraiment parlé avec lui, mais enfin, je peux imaginer d'avoir les espoirs un peu de toute la famille sur son dos, c'est jamais facile. Hein. Donc, j'imagine que. Je ne sais pas si cette pression, il la gère ou pas, ou si c'est ingérable pour lui, mais on n'en a jamais vraiment parlé. C'est ça.
L'entourage est important, tu penses, pour un sportif professionnel? Les décisions, je ne sais pas, d'avoir un agent, pas d'agent, suivant l'entraîneur, suivant la famille, des fois la copine ou la femme qui aimerait que ses intérêts passent avant ceux du footballeur. Comment tu le vois, Isaac, avec tous ces aspects-là? Comment il gère ces relations?
Alors, c'est très important d'avoir un bon entourage, je pense, dans le sens où, bah, voilà, on ne doit pas se laisser distraire. Enfin, déjà, d'avoir un bon entourage qui sait ce qui est important pour le joueur, où il a envie d'être, bah, va pas semer va pas mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je pense que Isaac, à ce niveau-là, maintenant, il gère assez bien. Il sait ce qui est important à l'heure actuelle. Il sait où sont ses priorités. Et le fait que l'entourage comprenne quelles sont les priorités du joueur, c'est très, très important.
J'ai entendu que tu avais un petit surnom qu'on t'appelait des fois Madame Kunuta. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ce petit surnom?
Oh non, c'est qui t'a dit ça?
Je ne sais pas, j'ai entendu ça. Alors, j'en ai entendu d'autres, mais j'aimais bien Madame Kunuta.
Alors, je vais t'expliquer. Alors, nous, on a une grande sœur un peu adoptive qui a grandi avec nous. Maintenant, elle habite à Zurich, elle a des enfants et tout. Et ça, c'était à l'époque où on habitait encore vers la Pentèse. Mm-hmm. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais super énervée ce jour-là. Mais super énervée. Je devais avoir 4-5 ans. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et du coup, Isaac et elle, en fait, ils me charriaient. Ils n'étaient que de dire « Ravia, Ravia, Ravia ». Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit « Je ne m'appelle pas Ravia, je m'appelle Madame Kunuta ». Je l'ai sortie comme ça de nulle part. Et jusqu'aujourd'hui, on m'appelle encore comme ça. Genre, même ma petite sœur, elle me charrie « Eh, Madame Kunuta ». Elle va me suivre toute ma vie, cette histoire.
Est-ce que ça t'arrive de t'énerver comme ça ou... Quel est ton tempérament?
Mon tempérament, alors ça dépend.
Des fois, quand tu tombes dans une fontaine, par exemple, au Liechtenstein, ça t'est déjà arrivé, ça?
Ah ouais, je m'en rappellerai toute ma vie, ça aussi.
Et puis, c'était plutôt...
Mais en fait, j'étais super petite, alors je me rappelle juste m'être penchée pour boire et je suis tombée dedans. Genre. Et le truc, c'est que j'étais toute petite et la fontaine, elle était énorme. Je pense que j'aurais pu me noyer si on ne m'avait pas... Et ce jour-là, je crois que je me suis pas énervée. J'étais juste mouillée et déçue.
Donc, du coup, plus de Liechtenstein et...
Non, on n'est jamais retourné là-bas. Enfin, je ne me rappelle pas si on est retourné là-bas.
C'était la première et la dernière fois.
Ouais. Mais du coup, je suis tempérament, ça dépend. Sur le terrain, par exemple, on ne peut pas vraiment m'énerver. Je garde beaucoup mon sang-froid. Et je mets toute ma rage dans le jeu. Ça veut dire que si quelqu'un m'énerve, ça ne va pas partir dans les insultes ou quoi. Je vais vraiment essayer de le raser sur le terrain. Comme ça, l'affaire, elle est réglée. Et puis sinon, dans la vie de tous les jours, franchement, ça dépend. Il y a des jours où je m'énerve hyper vite, je suis très irritable. Il y a des jours où, voilà, je laisse couler.
Il y a quoi qui t'énerve dans la société, dans le monde actuel?
Dans la société?
Qu'est-ce qui te... Est-ce que tu acceptes tout ou est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent?
Des choses qui me révoltent. Il y a quand même des choses qui me révoltent. Déjà, le fait qu'on n'accepte pas les gens comme ils sont, que ce soit leur culture ou tout ce comme ça, enfin, c'est révoltant puisqu'une personne, elle est comme elle est, donc faut l'accepter, quoi. Je supporte pas aussi l'acharnement sur les gens. Moi, j'ai vu des gens à l'école se faire harceler, des trucs comme ça. Enfin, je suis quelqu'un, même si la personne, je l'aime pas forcément, enfin, je supporte pas, en fait, l'acharnement envers les gens. Genre, c'est vraiment un truc que j'accepterai jamais. Même si la personne, je la porte pas dans mon cœur, je peux pas supporter qu'on s'acharne.
Et ça, t'as vu des choses comme ça à l'école?
J'ai vu des trucs comme ça, ouais, malheureusement. Quand on est petit, franchement, des fois, on n'est pas hyper gentil entre nous. Enfin, pourtant, avec des années de recul, je me dis, mais en fait, c'est super méchant de faire des trucs comme ça. Après, moi, je ne l'ai jamais fait à quelqu'un parce que, voilà, je ne suis pas comme ça. Mais je me dis qu'entre nous, des fois, les enfants, même les enfants, des fois, entre eux, ils sont super méchants. On ne se rend pas compte. Donc,
Non, c'est vrai. Que du coup, quand tu vois ta petite sœur à l'école maintenant, des fois, tu lui transmets des choses, tu lui dis, ben, écoute. Soit un peu plus douce, soit un peu plus gentille, soit un peu plus, etc.
Par exemple, elle me raconte des petites histoires et tout, puis enfin, moi, elle voit pas le mal, par exemple, dans ce qu'elle fait, parce qu'un groupe de copines, déjà à leur âge, ça va super vite, elles ont des groupes de copines, elles s'écrivent sur WhatsApp et tout, genre moi, ça veut.
Elle a quel âge, rappelle-nous?
Elle a 8 ans.
Elle a 8 ans, puis elle a un groupe sur WhatsApp.
Ouais, mais sur le téléphone de ma maman, attention, elle a pas de téléphone.
Attention.
Justement, attention. Voilà, elle est l'influence, elle a déjà un téléphone. Et ça va super vite à cet âge. Puis moi, je lui dis des fois, ouais, mais ce que vous avez fait là, c'est pas gentil et tout. Tu
devrais par faire exemple ça.
Alors, par exemple, elles ont un groupe de copines, puis elle me dit, ouais, elle, une fois, elle nous a menti, du coup, à chaque fois qu'on la voit, on court. Alors, elle la fuit. Puis moi, elle se rend pas compte, hein, mais c'est super méchant quand on se met à la place de la personne. Enfin, tu vois tes copines courir à chaque fois que ça arrive, ça doit être. Enfin, voilà, j'essaie de la remettre sur le droit chemin des fois. Et des fois, j'avoue que j'ai peur. Enfin, j'ai pas envie que ça lui arrive à elle, en fait. Ça me ferait trop de la peine. Mais
c'est toujours le risque, en fait.
Il y a toujours tout me dire. Parce que les enfants, il y en a qui n'osent pas dire. Enfin, justement, quand ce genre de choses arrive, ils n'osent pas dire. Moi, je lui ai toujours dit, et tu es là, tu me dis tout. Tu peux tout me dire. Toujours, tu peux tout me dire. Tu peux me faire confiance. Même des trucs qu'elle ne veut pas que je dise à mes parents, je ne dis pas. Moi, je garde le secret.
Ça ne m'étonne pas parce que ta maman te surnomme petite maman, toi aussi. donc, ça ne m'étonne pas que tu aies cette sensibilité et puis ce regard-là sur tes frères et sœurs. Et ça se ressent aussi dans ton discours quand tu disais que de transmettre quelque chose, transmettre un savoir. Ouais, c'est intéressant. Tu parlais de WhatsApp. Comment tu te positionnes, toi, par rapport aux réseaux sociaux alors, je ne sais pas si tu les pratiques, les réseaux sociaux. Comment tu les vois qu'est-ce que tu fais avec ces réseaux sociaux?
Alors, je trouve que les réseaux sociaux, il y a un bon et un mauvais côté dans le sens où, en fait, c'est un truc qui rend vite accro, déjà. Enfin, on arrive presque plus à s'en passer. Là, moi, j'utilise WhatsApp. Bon, WhatsApp, c'est important quand même. Je trouve que c'est plus privé que, par exemple, Snapchat et Instagram.
Alors, WhatsApp, on pourrait dire plutôt que ça pourrait être un équivalent à un email ou à un message. Enfin, c'est plutôt un moyen de communication, même si on peut y passer du temps, finalement, à discuter. Mais j'entendais plutôt Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook.
Alors, Twitter, j'ai essayé, j'ai rien compris, j'ai supprimé. Je comprenais rien. Ensuite, j'utilisais Snapchat parce que j'ai supprimé mon compte récemment. Parce que je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps pour rien. C'était une perte de temps. Donc, je l'ai supprimé.
Bravo. Ensuite,
Instagram, j'ai gardé Instagram parce que je trouvais qu'il faisait un peu toutes les fonctionnalités en même temps. Ça veut dire qu'on peut parler, on peut envoyer des snaps maintenant, vu qu'ils ont copié Snapchat. Et en fait, sur Instagram, il y a vraiment de tout, mais il faut faire attention aussi parce que ça prend vite du temps. Moi, j'ai mis le truc temps d'écran parce que sinon, je ne m'arrête pas. Et enfin, à la fin de la journée, se rendre compte qu'on a perdu, je ne sais pas, 3 heures sur les réseaux sociaux et qu'on n'a rien fait avancer dans notre vie, c'est triste. Enfin,
qu'est-ce que tu fais sur ces réseaux sociaux?
Alors, je pose des photos. J'aime trop faire des photos, en fait.
Ok.
J'aime ça. Ouais, c'est trop bien.
C'est un peu la star.
Je fais des photos, bah, je parle avec mes amis, je poste des stories, enfin voilà. Je fais tout, je regarde des vidéos, que ce soit du foot, des astuces, des recettes de cuisine, vraiment, je regarde plein de trucs.
Ravia, est-ce que le. Ben pour toi, pour ton frère qui est pro, est-ce que le fait d'être croyant, c'est une difficulté ou est-ce que c'est quelque chose de positif qui vous permet de passer à travers des choses?
Alors, bien sûr, enfin, pour moi, c'est quelque chose de positif déjà. Après, ce n'est pas un chemin facile. C'est jamais facile. Enfin, voilà, y a certaines personnes qui choisissent de prendre un chemin, nous, on a choisi un autre. C'est jamais facile parce que des fois, on doit camper sur nos positions, on doit rester fidèle à ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois, ben, voilà, on est le petit mouton noir qui sort du troupeau. Mais après, voilà, il ne faut pas avoir honte, il faut fièrement porter nos croyances. Je trouve que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'ai réalisé beaucoup, beaucoup de choses, notamment durant ma blessure. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'espoir aussi. Et je trouve que vraiment, ça m'a, comment dire, ça m'a beaucoup, pardon, ça m'a beaucoup aidée et renforcée mentalement. Je trouve que avoir, enfin, chacun un peu croit ce qu'il veut, mais genre moi, ça m'a vraiment... Je ne saurais pas expliquer, en fait. Je n'ai pas les mots pour expliquer, mais ça m'a donné une force inimaginable que personne ne pourrait m'apporter sur cette terre.
Ok. Quand tu vois tous ces différents courants religieux, et puis les dérives qu'il y a aussi avec ces courants religieux, et les amalgames que les médias ou que les gens font avec tel ou tel attentat, etc., ou telle ou telle religion opposée à une autre, pour savoir comment tu vois ça, toi qui est croyante. Est-ce que quand on est croyant, on met les différentes religions sur une échelle en disant la mienne c'est la meilleure, les autres ont tort, les autres sont... Comment tu vois ça?
Alors moi, franchement, après, c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, j'accorde pas vraiment d'importance au nom de la religion. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est le cœur de la personne. Que ce soit un musulman, chrétien, même quelqu'un qui croit, qui s'associe à aucune religion, pour moi, c'est le cœur qui compte, le fait d'être une bonne personne, le fait d'avoir, je sais pas, un but sur cette terre. Enfin, pour moi, c'est vraiment le plus important et j'ai vraiment jamais accordé... je ne peux pas revendiquer, oui, moi, c'est mieux, moi, c'est comme ça. Après, bien sûr, moi, j'aime bien débattre avec des gens, des fois, demander pourquoi c'est comme ça et pas d'une autre manière. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis qui ne croient pas en Dieu. Enfin, voilà. J'ai jamais catégorisé les gens, en fait. J'aime pas faire ça. Parce que chacun, en vrai, a le libre choix, en fait, de croire ce qu'il a en Dieu.
Être une bonne personne, c'est quoi, Ravia?
Je sais pas, justement, voilà, même ça c'est subjectif parce qu'il y a des personnes qui vont dire ça c'est être une bonne personne, d'autres qui vont dire non, faut être comme ça. Mais je pense qu'avoir un bon fond, vouloir faire du bien, après on peut pas toujours faire du bien, bien sûr, des fois on fait pas exprès, mais on fait du mal aux gens, on peut offenser des gens, mais ce qui compte c'est vraiment la volonté d'une personne d'apporter quelque chose de plus. D'être bienveillant envers les autres, en fait, tout simplement.
Comment est-ce que tu te vois dans quelques années, Ravia? Est-ce que tu auras une famille? Est-ce que tu te vois, je ne sais pas, mariée avec des enfants ou plutôt faire une carrière dans quelque chose ou l'autre? Comment est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que quand on a ton âge, on se projette déjà sur ces choses-là?
Alors, c'est dur de se projeter parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Enfin, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Alors, bien sûr, j'aimerais avoir des enfants, une famille et tout, mais est-ce que ce sera tôt ou plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que je vais d'abord vouloir avancer un peu plus dans le foot et mettre peut-être la vie familiale de côté? Parce que ce n'est pas facile d'avoir les deux en même temps.
C'est clair.
Quand on est une femme, on a le bébé, on doit arrêter pendant un certain temps. Donc, vraiment, je ne sais pas. Je me vois dans un bon club, faire mes quelques années, Peut-être, je sais vraiment pas. Genre, c'est super dur de se projeter. Franchement, je vis au jour. Enfin, je me fixe des objectifs, mais je vis un peu au jour le jour, je
C'est
pense.
normal,
Voilà.
à ton âge, c'est clair
Super cool, tu.
que c'est compliqué de se projeter. Est-ce que tu as un modèle? Alors, je pense que ta maman est un modèle pour toi, mais est-ce que tu as d'autres modèles dans ta vie? Est-ce que ton frère, c'est aussi d'une certaine manière un modèle? Est-ce que tu as des modèles dans le foot ou autre ou,
Alors bah dans le foot, bah voilà, mon frère, bien sûr que c'est un modèle. Ma maman, franchement, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Voilà, c'est mon modèle. Elle me transmet plein de choses. Ma grande sœur aussi adoptive avec qui j'ai grandi, c'est aussi un modèle pour moi. Franchement, plein de gens dans ma famille, enfin, pour moi, c'est tous des modèles. Ils ont tous réussi là où ils auraient pu échouer. Ils se sont tous battus. Bon, sinon, un modèle au niveau du foot. J'en ai pas forcément un, mais je m'inspire beaucoup. Enfin, je regarde plein de vidéos et tout. Même là, j'ai vu des vidéos. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une joueuse qui joue en France. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'ai vu plein de. Enfin, je m'inspire en fait de tout le monde. Pour moi, chacun est un modèle à quelque part en fait.
Autre que le sport, peut-être, est-ce que il y a une chanteuse qui te fait rêver, puis.
Bah, il y a des chanteuses que j'aime, mais après, c'est pas forcément des modèles, quoi. Enfin, on a tout.
Quelle est ta chanteuse favorite?
Ma chanteuse. C'est dur,
Je
cette
sais pas, je sais pas, ça existe.
En fait, j'aime trop de trucs. La musique, genre, j'écoute tellement de tout que j'ai pas de chanteur préféré.
T'écoutes quoi maintenant?
Préféré. J'ai un chanteur préféré. Il s'appelle
Vas-y.
Rema. C'est un Nigérien.
Il s'appelle
Rema.
Rema.
Je crois qu'il est un peu plus petit que Isaac. Après, il
Ok.
a encore fait beaucoup d'albums et tout, mais je sais pas, j'aime trop son personnage, son style et tout. En plus, il vient de la même ville que nous au Nigeria.
Ok, il vient de.
Il vient du Nigeria, de ça s'appelle Edo State. Ouais.
Et du coup, il fait quoi comme genre de musique?
Alors, il fait de l'afro. Bon, voilà, il fait des rythmes africains et tout. Après, il se lance aussi des fois un peu dans le style américain. Et puis, tu sais, il a une voix super un peu aiguë et orientale, je dirais un peu. Ouais. C'est trop bizarre, mais j'aime trop. J'aime pas.
Comment tu vois tous ces changements avec la musique là maintenant les gens découvrent un peu le drill. Avant c'était la trap pendant plusieurs moments. La musique afro-américaine elle est partout. Elle a envahi quand j'étais jeune quand on parlait de la culture hip-hop qui était au début.
Ouais.
Tout le monde riait de ça parce qu'on dirait ouais, de toute façon, avec votre manière de parler bizarre, de vous habiller, ça va pas du tout marcher. Et puis on voit maintenant que tout le monde est influencé. Tu regardes la télévision, tu regardes même les chaînes comme les chaînes standards ou peu importe. Il y a des rythmes qui sont très liés à la culture. À la culture hip-hop ou à la culture urbaine en général. Toi, comment tu vois ça?
Bah moi je trouve ça, enfin j'aime trop, enfin je trouve ça bien, enfin moi j'écoute hyper, enfin j'écoute beaucoup déjà les musiques nigérianes, enfin j'écoute vraiment de tout, c'est un truc de ouf. Même les musiques d'il y a 10 ans, il y en a que j'écoute et tout. Et je trouve que c'est bien aussi dans le sens où, enfin avant par exemple les artistes nigériens, il y a pas beaucoup de gens qui les écoutaient. Et il y a certains grands artistes, comme par exemple Beyoncé, bah, elle a mis en lumière beaucoup d'artistes africains qui maintenant, bah, voilà, ils sont exposés à la lumière. Et puis maintenant, bah, voilà, ils cartonnent. Et je trouve que c'est super bien d'avoir donné la chance à des gens bah, qui au départ n'avaient rien, comme des chanteurs comme Wizkid, je ne sais pas si tu connais.
Bien sûr.
Bah, lui, il est parti de rien, quoi. Il y a plein de chanteurs comme ça qui avaient rien du tout, mais rien. Et bah, c'est souvent comme ça, hein. Les artistes, ils se forgent à partir de là. Genre, moi, je trouve ça trop bien.
Est-ce que tu trouves que cette connexion qu'on a de plus en plus avec l'Afrique, comment tu c'est quoi ton regard là-dessus? C'est vrai qu'il y a certaines années, on était beaucoup moins influencés, je dis les Européens ou même les Américains étaient moins influencés. Je pense que tout ce parcours avec la culture hip-hop a fait que voilà, il y a eu une connexion. On a commencé à se dire, ah oui, en Afrique, il y a des choses intéressantes. Il y a Il y a des vêtements intéressants, il y a des manières de danser intéressantes, etc.
Ouais. Bah moi, je trouve ça hyper bien parce que voilà, bah maintenant, tout le monde peut un peu voir. Enfin, on n'avait pas accès à ces informations avant, même, enfin, je vais dire ça, enfin, c'est ce que je pense en tout cas, mais même l'image de l'Afrique, je trouve qu'elle a été un peu faussée par les réseaux. Enfin, ils montrent toujours bah, les endroits très touchés par la pauvreté. Alors, oui, il y a beaucoup d'endroits comme ça, mais mis à part ça, il y a des endroits en Afrique, genre, c'est le futur, quoi. Je suis désolée, mais il y a des endroits où c'est encore plus loin que l'Europe, c'est magnifique et tout. Et je trouve qu'on avait besoin un peu de ça. Enfin, il y a plein d'endroits en Afrique qui ont, enfin, sur lesquels on ne mettait pas la lumière. Et je trouve que c'est bien maintenant que les gens voient quelle est la vraie Afrique et comment elle est en train d'évoluer, parce que c'est un continent qui évolue, mais de manière phénoménale. Et moi, je peux le prédire, ça va être un des continents les plus. Ça va aller encore plus loin, quoi. Ils ont tout à faire, en fait.
J'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois en Afrique et notamment dans ton pays. Mais il y a un pays que je ne connais pas, mais j'ai vu des images, des vidéos et ça semble fabuleux, c'est la Namibie.
Ah
Et j'ai vu des images et des vidéos de paysages, mais à couper le souffle. Et c'est un de mes objectifs d'aller une fois de me rendre en Namibie.
bien.
Pour les personnes qui écouteront seulement ce podcast et qui ne le verront pas, Ravia a les cheveux plaqués. Comment on peut décrire ta coiffure?
Ma coiffure, alors j'ai séparé avec une raie au milieu.
Ok.
Ensuite, j'ai plaqué et j'ai fait un fil derrière.
Voilà. C'est important parce que pas tout le monde verra ce podcast en version vidéo. Et des fois, de décrire les choses, c'est important. Écoute, Rabia, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Rabia?
Bah, déjà une bonne récupération de ma blessure, voilà. Ça, je pense que c'est le principal. Et puis, la bonne santé, l'amour, de la joie.